Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au seuil du carême, dans lequel nous entrons dès mercredi, la Sainte Église ne nous cache rien. Elle nous expose très clairement le programme, comme notre Seigneur lui-même l'a exposé à ses apôtres. « Voici que nous montons à Jérusalem. » Et tout ce qui est écrit par les prophètes touchant le Fils de l'homme sera accompli, car il sera livré aux païens, et moqué, et flagellé, et couvert de crachats. Et après qu'ils l'auront flagellé, ils le tueront, et il ressuscitera le troisième jour. Voilà une annonce très nette, précise, bien détaillée, bien circonstanciée, et en plus appuyée sur les oracles des prophètes, puisque ceci avait déjà prédit la passion du Sauveur, notamment dans le psaume 21 ou bien dans le chapitre 53 d'Isaïe. Il semble qu'on ne peut pas être plus clair. Et pourtant, le message ne passe pas. L'Évangile nous dit que les apôtres n'ont rien compris. L'Évangile le répète même trois fois. Ils ne comprirent rien à tout cela. Et ce discours leur était fermé. Et ils n'entendaient pas ce qui leur était dit. Est-ce surprenant, oserons-nous dire, mes frères, que cette incompréhension est absolument incompréhensible et qu'à leur place, nous aurions tout de suite tout compris? Assurément non, ou alors si nous le disons, c'est que nous nous trompons nous-mêmes, car nous sommes tous blessés depuis le péché originel, par plusieurs blessures, et notamment celle que les théologiens, à la suite de saint Thomas, appellent la blessure d'ignorance, ignorantia. Donc vous savez que le péché originel a abîmé notre nature et qu'au baptême, nous recevons à nouveau la grâce de Dieu, nous sommes lavés de la tache du péché originel, mais nous ne sommes pas parfaitement guéris des blessures. Et donc, cette blessure d'ignorance reste. Et ici, il faut bien expliquer, parce que le mot « ignorance », aujourd'hui, semble simplement indiquer une absence de connaissance. Quand on dit quelqu'un « il est ignorant », cela indique simplement « il ne sait pas ». Il ne sait pas ce qu'il devrait savoir. Il ne sait pas. Mais les théologiens, lorsqu'ils parlent de cette blessure d'ignorance dont nous héritons depuis le péché originel, veulent dire davantage. Nous avons un penchant à l'illusion et à l'aveuglement. Remarquez bien que déjà, dans les réalités terrestres, dans l'ordre naturel, il y a très facilement des quiproquos, des incompréhensions entre les gens. Nous voyons ça autour de nous. Ça nous est certainement arrivé un jour ou l'autre d'avoir l'impression que la personne à qui nous parlions ne comprenait rien de ce qu'on lui disait, parce qu'elle avait déjà son schéma en tête et elle interprétait tout en fonction de son idée à elle. Et on pouvait lui dire ce qu'on voulait, elle ne comprenait pas. Et disons-nous bien que ce que nous avons ainsi expérimenté avec les autres, parfois c'est sans doute nous qui, vis-à-vis des autres, le faisons, c'est-à-dire nous comprenons mal ce qu'ils veulent nous dire parce que nous restons dans nos propres façons de penser. Ces dialogues de sourds ne sont pas tout à fait rares, on peut y assister assez souvent. De plus, nous nous rendons compte que facilement nos passions viennent brouiller notre perception des choses. Comme on dit communément, nous prenons nos désirs pour la réalité, ou bien à l'inverse, nous prenons nos craintes pour la réalité. Dans un cas comme dans l'autre, ce sont les passions qui viennent nous empêcher de voir les choses comme elles sont. Vous mettez plusieurs personnes à assister exactement au même événement, elles n'en retiendront pas la même chose. Certaines, les personnes peureuses ne verront que l'aspect inquiétant, d'autres ne verront que l'aspect rassurant, d'autres plus superficielles ne verront que l'aspect amusant. Mais en tout état de choses, il y aura un certain filtre qui nous empêchera de voir les choses de façon parfaitement objective. Et cela va si loin que même dans l'ordre naturel, pour les réalités terrestres, nous avons besoin d'une vertu spéciale qui s'appelle la vertu de prudence pour réussir à nous adapter à la réalité. C'est le rôle de la vertu de prudence, adapter notre action au réel. Alors, s'il en est ainsi déjà entre hommes, a fortiori dans nos rapports avec Dieu. Parce que si déjà nous avons du mal à nous comprendre avec des gens que parfois nous côtoyons tous les jours, que nous entendons, que nous voyons, qui peuvent nous faire signe de toutes les façons imaginables, quand il s'agit de Dieu qui nous dépasse, que nous ne voyons pas, et qui en plus veut nous proposer un bonheur surnaturel, évidemment, il risque d'y avoir des incompréhensions de notre part. Surtout si Dieu demande que nous agissions contre notre égoïsme et que, pour nous approcher de lui, nous sachions nous détacher de tout ce qui n'est pas Dieu. Voilà exactement le programme, nous détacher, savoir sacrifier tout ce qui n'est pas Dieu pour pouvoir nous approcher de lui, et bien c'est précisément ce à quoi sert la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur a voulu s'offrir en sacrifice pour nous apprendre, nous aussi, à savoir nous sacrifier, parce que c'est le chemin nécessaire, ce chemin de détachement vis-à-vis du monde pour pouvoir accéder à lui. Et c'est un langage que nous avons beaucoup de mal à entendre, et certainement autant, si ce n'est plus que les apôtres, le langage de cette annonce de la passion, de la croix et du sacrifice qui est nécessaire pour nous tous. Nous sommes aveugles, il faut bien voir les choses comme elles sont, à cause de cette blessure d'ignorance, nous ne voyons pas la réalité comme elle est, et en particulier dans l'ordre moral. Nous ne voyons pas bien notre devoir, ce que le bon Dieu attend de nous. Souvent, nous nous faisons une idée étriquée et trop restreinte de notre devoir d'État, et un certain nombre de choses qui nous déplaisent sortent de notre champ de vue. Et d'autre part, nous sommes facilement aveugles sur notre état, ce que nous sommes et nos défauts. Un très saint prêtre, avait à ce sujet une phrase assez effrayante. Il disait « Ne demandez pas à Dieu de vous voir tel que vous êtes. J'ai eu une fois cette grâce et j'ai été tenté de mourir de désespoir. » Alors, on pourrait se dire, est-ce vrai? Est-ce que vraiment, si nous nous voyions tels que nous sommes, tels que Dieu nous voit dans l'ordre moral, nous risquerions d'être pris de désespoir? Oui, certainement. Alors, vous me direz, donc il ne faut pas demander à Dieu la lumière? Si, il faut lui demander, mais peut-être pas de voir d'emblée tout ce qu'il y a à voir. Demandons-lui la lumière, de voir ce qu'il veut d'abord que nous corrigions maintenant, et puis ensuite, petit à petit, Dieu nous donnera davantage de lumière et nous pourrons progresser. Mais c'est sûr que si nous voyons tout d'un seul coup, vraisemblablement, nous nous désespérerions. Mais entre voir tout et ne rien voir, il y a un intermédiaire, et il faut évidemment demander la lumière suffisante pour pouvoir progresser. Et c'est précisément pour cela que l'Église nous donne aussi aujourd'hui l'évangile de cet aveugle, ce mendiant aveugle qui était sur le bord du chemin où passe notre Seigneur et qui, en implorant notre Seigneur, va réussir à obtenir la grâce de la vue, la guérison de sa cécité. Il pourra voir. Que fait-il? Eh bien d'abord, on remarque, l'aveugle commence à crier avant même que Jésus soit arrivé. C'est très compréhensible, il est aveugle. Il entend des gens qui commencent à passer, il sait que Jésus-Christ est parmi eux, mais il ne sait pas exactement à quel moment Jésus va passer. Il entend des gens, il ne sait pas qui c'est. Et tout de suite, il crie, parce qu'il ne veut pas manquer Jésus lorsque celui-ci sera devant lui. C'est la même chose dans notre vie. Nous savons que Jésus va passer. Jésus passe tous les jours dans notre vie. Il vient nous donner ses grâces et il les donnera particulièrement pendant le carême. À quel moment exactement, nous ne savons pas. Dieu, à certains moments, vient nous donner davantage de grâce. Il vient essayer de nous éclairer, il vient essayer de nous pousser. À d'autres moments, on le sent moins. Il est toujours présent, mais on sent moins son action. Et on ne peut difficilement prévoir quand nous recevrons telle ou telle grâce. Mais il ne faut pas attendre de la recevoir. Il faut, dès maintenant, crier vers lui, prier, pour pouvoir la recevoir au moment où Jésus passera. Donc n'attendons pas, et même maintenant, avant même que le carême ait commencé, imitons cet aveugle et prions, et même faisons comme lui, crions, car il criait. Et c'est ça d'ailleurs qu'est la prière. Qu'est-ce que la prière? On pourrait dire c'est un cri vers le ciel lorsqu'on prend conscience de sa misère. Il y a ces deux aspects-là, et on les trouve dans la prière de cet aveugle. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi, miserere mei. Ayez pitié parce que je suis dans un état de misère. Et qu'est-ce qui le fait crier, cet aveugle? C'est ça. Il est bien conscient de sa misère, bien conscient de son aveuglement. Et en même temps, il fait un acte de foi. Il appelle Jésus fils de David parce que c'était un des titres que l'on donnait au Messie. Le Messie se reconnaîtrait d'abord à cela qu'il était fils de David. Donc il veut indiquer qu'il croit que Jésus est le Messie. Et il lui crie « Jésus, fils de David, ayez pitié de moi ». Notez qu'il rencontre de la contradiction. Ces cris importunent les autres personnes qui sont là, qui essayent de le faire taire, de le calmer. Va-t-il arrêter? Non. Il crie de plus belle « Jésus, fils de David, ayez pitié de moi ». Et là aussi, il y a une leçon très utile pour nous, qui est que la prière n'obtient du fruit que dans la persévérance. Nous commençons à prier, il y aura forcément des obstacles qui vont essayer de nous empêcher de continuer. Des obstacles qui peuvent venir de l'extérieur ou de nous-mêmes. Nous allons nous lasser, être pris par l'envie de faire autre chose, et hop, nous arrêtons. Alors nous avions bien pris de belles résolutions au début du carême, et puis au bout de 3 jours, on se lasse et on arrête. Non, la force de la prière est dans la persévérance, et malgré les obstacles, il faut continuer à crier de plus belle, même si on a l'impression que ça ne sert à rien, qu'on n'est pas exaucé. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Alors, Jésus s'arrête. C'est indiqué dans l'Évangile, il s'arrête, stans. Notez, Jésus passe auprès de tous, mais il ne fait que passer auprès de ceux qui le négligent. Il s'arrête auprès de ceux qui l'invoquent. Et là, il reste avec eux et il commence à parler avec eux. Et c'est ce qu'il fait avec cet aveugle. Notez encore que notre Seigneur aurait pu le guérir dès cet instant. Jésus savait parfaitement ce qui lui était demandé. Mais non. Jésus veut que l'aveugle s'approche de lui. Il demande qu'on le fasse approcher. Et il demande aussi « Que veux-tu que je te fasse ?» Il en est de même dans notre vie. Il ne suffit pas de commencer à prier jusqu'à recevoir les premières grâces. Quand elles arrivent, il faut encore faire effort pour se rapprocher davantage de notre Seigneur, particulièrement dans les sacrements. Que ce soit le sacrement de pénitence ou bien sûr, surtout le sacrement de la Sainte Eucharistie. C'est en faisant cet effort pour se rapprocher de notre Seigneur que vraiment nous recevrons toutes les grâces qu'il veut nous donner. Et il faut continuer à demander lorsque nous voyons que nous commençons à être exaucés. Jésus s'est tourné vers lui et lui, plein d'espoir, un autre évangéliste, l'évangéliste Saint Marc, qui a bénéficié des souvenirs de Saint-Pierre, raconte même comment l'aveugle s'est précipité vers Jésus en, dit-il, en laissant son manteau. Il était tellement pressé d'arriver qu'il a laissé son manteau derrière lui pour sauter, se précipiter davantage vers Jésus. Et là aussi, il y a un petit détail important qui est, il faut savoir, se détacher de certaines choses, abandonner même des choses qui sont à nous, qui sont légitimes, pour pouvoir s'approcher davantage de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque Jésus lui demande « Que veux-tu ?», il répond « Que je vois ?» Et c'est la grande prière que nous devons faire en ce début de carême à notre Seigneur. Seigneur, faites que je vois la folie, le néant du monde, que je vois la profondeur de l'abîme qui me menace, que je vois l'état réel de mon âme, que je vois les dangers qui m'entourent, mais que je vois aussi le bonheur que vous me préparez et l'amour que vous avez pour moi. Oui, Seigneur, faites que je vois, et c'est-à-dire dissipez les fumées, dissipez les illusions, dissipez les brouillards, aidez-moi à me sortir la tête de toutes ces préoccupations du monde qui sans cesse m'entraînent dans un flot de vanité dont je n'arrive plus à me sortir, et faites que je vois l'essentiel. Et là, notre Seigneur guérit et donne la vue à cet aveugle. Que fait-il ? Va-t-il rester là sur place ? Non, ça n'est pas fini. Dès qu'il a reçu la grâce de voir, il se met à marcher et il suit notre Seigneur. Et ça, si nous faisons un bon carême, c'est ainsi que ça se passera. Nous commencerons par prier, essayer de recevoir la lumière, et recevant la lumière, nous nous approcherons de notre Seigneur et ensuite nous le suivrons. C'est la règle qui a été donnée. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Il marche, il suit notre Seigneur Jésus-Christ et l'Évangile précise, il lui rend grâce. Et c'est une formule très expressive, il lui rend grâce, parce que quand on regarde les épîtres des apôtres, on se rend compte qu'effectivement, les apôtres aiment rendre grâce à notre Seigneur de quoi ? De ce qu'il nous a donné la lumière. C'est un thème qu'on trouve très fréquemment chez saint Jean, bien chez saint Paul. Saint Paul, au début de son épître aux Colossiens, par exemple, « Rendons grâce de ce qu'il nous a rendu dignes de participer à l'héritage des saints, en nous éclairant de sa lumière, en nous arrachant de la puissance des ténèbres. » Voilà ce qu'a fait Dieu. Il vient nous arracher de la puissance des ténèbres. Et c'est également ce qu'annonçait le vieillard Siméon. Il disait, ce petit enfant qui est là, vient illuminare isquin tenebris et inumbra mortis sedent. Il vient apporter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres et qui sont assis à l'ombre de la mort. C'était le cas de cet aveugle, il était assis, il ne pouvait pas bouger, à côté de la route, à l'ombre de la mort, et il reçoit la lumière. Et c'est notre cas à tous, plus ou moins, ceux qui sont dans le péché mortel, ceux qui n'ont pas la foi, bien plus évidemment, mais tous, même si nous sommes en état de grâce, même si plus ou moins, tant bien que mal, nous essayons de nous approcher de notre Seigneur, nous avons encore beaucoup de ténèbres à écarter, et nous avons besoin de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous illuminer, nous arracher à la puissance des ténèbres et nous permettre de le suivre. Alors, profitons, mes frères, de ces quelques jours qui nous restent avant le début du carême pour nous mettre dans ces dispositions. Et avant tout, demandons cette grâce de la lumière. C'est la grâce qu'a demandé aussi saint Paul. Saint Paul qui renversé sur le chemin de Damas est d'abord justement frappé de cécité et il demande « Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?»« Seigneur, que voulez-vous que je fasse ? Donnez-moi votre lumière. Donnez-moi votre lumière pour savoir quelle résolution je dois prendre pendant ce carême. » Nous avons tous un nombre bien précis de carêmes qui a été fixé par Dieu que nous rencontrerons dans notre vie. Il n'y en aura pas un de plus que celui que Dieu a prévu. Combien il nous en reste, nous ne savons pas. Pour l'un ou l'autre d'entre nous, c'est peut-être notre dernier carême. Et même s'il nous en reste encore quelques dizaines, il n'y en reste pas des centaines, c'est sûr. Il va y avoir des grâces qui vont nous être données. Si nous les laissons passer, nous mettons tout simplement notre salut en danger. Donc il faut se préparer à bien profiter de ce carême. Un carême dont on profite bien est un carême bien commencé. Et un carême bien commencé est un carême au début duquel on a pris des résolutions nettes et précises. Si on a une résolution générale, je vais faire des efforts, mais qu'on n'a pas fixé quels efforts, on ne fera pas grand-chose. Donc prenons le temps pendant ces deux jours de nous demander sur quoi vais-je faire des efforts ? demandons la lumière à notre Seigneur Jésus-Christ, et puis bien sûr, demandons-la par l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.